capo alla source.
Caroline.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle série d'épisodes de votre émission d'histoire sur Radio Vassivière, anti-histo-amétropique. Alors aujourd'hui, après un passage dans le Japon de la seconde moitié du 19e siècle, nous retournons sur nos terres limousines. Et quitte à faire un grand voyage de retour sur le plan géographique, je vous propose aussi un grand retour en termes d'années. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, sur un paysage vallonné des Côtes d'Or, non loin de ce qui est aujourd'hui la commune d'Alise-Sainte-Reine. L'armée du grand César, composée de 72 000 Romains et 10 000 Germains, assiège l'oppidium d'Alésia. Mais l'armée romaine est elle-même derrière un grand retour en termes d'années. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, sur un paysage vallonné des Côtes d'Or, non loin de ce qui est aujourd'hui la commune d'Alise-Sainte-Reine. L'armée du grand César, composée de 72 000 Romains et 10 000 Germains, assiège l'oppidium d'Alésia. Mais l'armée romaine est elle-même derrière un formidable assemblage de fortifications assiégées par une énorme armée gauloise d'environ 240 000 hommes, selon César. Parmi eux, près de 10 000 combattants Lémovis, commandés par le chef Cédoulos. C'est à l'occasion de cette défaite gauloise mémorable que ce dernier perd la vie. Mais c'est qui, c'est quoi au juste les Lémovis? Eh bien, c'était la tribu celte qui était présente sur le territoire équivalent du Limousin d'aujourd'hui. La ressemblance en est presque frappante, tout le Limousin est compris dedans, si ce n'est la région d'Argentat dans le sud-est. Ils ont donné le nom à certaines villes importantes comme Brivacurecia, qui deviendra Brive-la-Gaillarde, Acitodonum, qui deviendra Ain, ou encore Uxellum pour Ussel. Bon, vous commencez à en avoir l'habitude, mais reprenons un peu de hauteur historique. Les Lémovis, ce sont des Gaulois. Non mais n'importe quoi. C'est César qui les a appelés comme ça. Pour lui, tout ce qui est au nord de l'Italie, c'était des Gaulois. À l'est du Rhin, les Germains, et au-delà de la Manche, des Bretons. Ces deux affirmations, voire ces trois, elles ont du vrai et du faux. C'est bien César qui nous a légué ce nom de Gaule. En vérité, l'idée qu'au nord de l'Italie, les peuples sont unis en une sorte de pays, elle est fausse. Même pour César, le terme de Gaule équivaut plus à un nom de région. Il est très conscient que sur cette région résident de nombreuses tribus querelleuses. C'est en effet sous le prétexte de venir en aide à une qu'il va lancer son invasion. Les peuples résidant donc sur cette région de Gaule étaient en réalité différents peuples celtes. Ils avaient vraisemblablement une certaine culture commune et c'était donc principalement à cela qu'on les reconnaissait. Ils occupaient l'équivalent de la France, du Portugal, de l'ouest de l'Espagne, des îles britanniques et du centre de l'Europe. Au nord de l'Europe, on trouvait plus des peuples germaniques, scandinaves, et au sud, les latins et les grecs. Bien entendu, je vous fais une répartition très simplifiée. Il y avait bien plus de peuples sur cette vaste étendue qu'est l'Europe. Mais la Gaule, comme région, était selon les Romains divisée en trois parties. La Gaule cisalpine, c'est-à-dire au nord-ouest de l'Italie, la Gaule transalpine, de l'autre côté des Alpes, et enfin la Gaule dite chevelue, ou en latin Gallia comata, qui comprend en fait encore trois subdivisions. Au sud-ouest, l'Aquitaine, au nord-est, la Gaule belgique, et au centre, la Gaule celtique. Voilà donc avec la division romaine. Même si depuis le début, je ne cesse de vous répéter que les peuples gaulois, bien qu'ayant tous une certaine culture commune, sont distincts les uns des autres, on peut tout de même nuancer un peu. En effet, les différentes tribus avaient des tailles plus ou moins grandes et s'affrontaient très souvent. Du 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ, la guerre occupait une place centrale au sein de la société gauloise. Elle constituait le fondement de l'économie par le pillage et organisait la société entre combattants et non-combattants. La vertu guerrière était également la source du pouvoir. C'est elle qui légitimait le pouvoir du chef et des nobles gaulois. Ainsi, la mobilité sociale pouvait exister au sein de cette société et toucher le simple mercenaire gaulois qui s'illustrait au combat et arborait ses trophées. Cette organisation sociétale, fondée sur l'art de la guerre, préfigure ainsi l'organisation qui prévaut ensuite dans l'Occident médiéval. Donc, certaines petites tribus se sont donc petit à petit alliées pour pouvoir mieux se défendre et réguler le commerce par exemple. Elles se rassemblaient en ce que l'on appelle confédération ou fédération. Vu que ce système s'est révélé efficace, les autres tribus en ont fait autant par la suite. Bien entendu, vu que les Gaulois n'utilisaient pas l'écriture, ce que je viens de vous dire sur l'apparition des confédérations n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Certaines de ces confédérations furent même créées par les Romains durant l'occupation. Mais en ce qui concerne les confédérations concurrentes, tout est vrai. Et oui, les Romains le confirment, puisqu'avant la conquête de César, ces derniers commerçaient beaucoup avec les différentes tribus. Ils échangeaient de l'or, des esclaves, de la ferronnerie contre du vin, par exemple. On a donc la confédération des Albiciens, occupant le Mercantour, la confédération des Allobroges, s'étendant sur le Dauphiné, la Savoie et la Haute-Savoie, la confédération des Arvernes, du nom de la plus puissante tribu. Cette dernière avait d'ailleurs un territoire équivalent à l'Auvergne, et a eu l'un des chefs les plus connus, Vercingétorix. Et enfin, il y avait la confédération Olerque. On ne savait pas si les Lémovis étaient rattachés à une confédération, mais l'on sait en revanche qu'à la suite de la conquête romaine, les Lémovis et leur territoire ont été rattachés à la province d'Aquitaine. Pour revenir à l'organisation politique gauloise, aussi curieux que cela puisse paraître, le fonctionnement politique n'était pas si éloigné que cela des Grecs et des Romains. En effet, chaque peuple constituant les Gaulois connaissait des formes élaborées de gouvernement. Le Gaulois était un citoyen, c'était donc un homme libre qui participait à la vie de la cité. Il assistait aux assemblées et élisait des représentants. Il payait même des impôts et effectuait un service militaire, contrairement aux armées romaines qui étaient des armées professionnelles. Les élus se répartissaient en deux assemblées, une assemblée de représentants et une assemblée de sages issus des grandes familles gauloises. Ces assemblées administraient le territoire et décidaient de l'avenir du peuple, des guerres, de la paix et des alliances. Deux magistrats étaient élus au sein de ces assemblées. Un magistrat civique, s'occupant de la vie de la communauté, et un stratège attaché aux affaires militaires. La géopolitique de la Gaule reposait avant tout donc sur un vaste système de clientélisme entre les peuples qui permettait ainsi au fil des alliances de limiter les rivalités entre les Gaulois et de former ce dont nous venons tout juste de parler, les fédérations ou confédérations. L'exemple parfait de ce clientélisme est la confédération des Arvernes, les Arvernes étant la tribu dominante et les autres les tribus clientes. Les conflits donc entre ces peuples pouvaient être résolus par l'assemblée annuelle des druides qui se tenait au centre géographique de la Gaule, près d'Orléans, dans la cité des Carnutes. Cette organisation et conception de la justice en Gaule est alors révélatrice du degré de conscience des différents peuples d'appartenir à un même ensemble, sans pour autant être un pays. Oh. voilà donc dans quel monde les Lémovis évoluaient. Ils partageaient à peu de choses près les mêmes cultes que les autres tribus et avaient une religion polythéiste. On peut citer la divinité principale en la personne de Taranis, de du tonnerre et des forces cosmiques, et qui a été assimilée à Jupiter par les Romains. Vient ensuite Cernunnos, le dieu Cranser, dieu de la fécondité terrienne, du renouveau des forces de la nature. Et comment ne pas conclure sur le très célèbre Belenos, que cite si souvent Astérix. C'était le dieu de la lumière et guérisseur. Les Romains l'apparenteront à Apollon. Les Celtes croyaient en l'immortalité de l'âme. L'homme, à sa mort, part en direction de l'ouest comme le soleil couchant, et il s'installe sur des îles sacrées où il attend que vienne l'heure de renaître dans un autre corps. Il concevait l'au-delà comme un monde sans mort et sans hiver. Leur calendrier avait adapté l'année lunaire au cycle solaire avec deux saisons, l'hiver et l'été, ainsi que quatre fêtes saisonnières principales. On peut en citer deux. Le 1er mai avait lieu Beltane, fête de la transhumance du bétail vers les pâturages estivaux et donc de la belle saison, et son alter égal, Samhain, le 1er novembre, marquant la fin d'une année et le début de la suivante. Mais aussi la fin de la saison claire et le début de la saison sombre. Le soleil était alors remercié pour la moisson qui permettait d'affronter l'hiver et les troupeaux rentrés à l'établi. Elle était aussi le moment des relations entre les hommes et les dieux de l'autre monde. Ces deux fêtes sont vues comme les ancêtres du Mardi Gras avec Carnaval et de Toussaint avec cette fois-ci Halloween. Sachez enfin que la religion était conduite par les druides qui étaient en plus d'être des prêtres de vrais savants, les détenteurs du savoir après de très longues études s'étalant parfois sur plusieurs décennies. Revenons à nos Lémovis. On sait en vérité que très peu de choses, si ce n'est qu'ils étaient passés maîtres dans l'art de l'exploitation des minerais précieux, c'est-à-dire l'or ou l'étain. Ils étaient aussi de grands commerçants. On trouve au sud, à l'est et au nord-ouest de la Haute-Vienne et au nord-est de la Dordogne des mines d'or exploitées à l'époque antique. Ces mines étaient en activité entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ et n'avaient alors pas livré tout l'or qu'elles renfermaient, puisque celles de Bournex, par exemple, à côté de Saint-Héryé, dans le sud du département, n'ont été fermées qu'en 2002. Après le 1er siècle avant Jésus-Christ, ces mines sont progressivement tombées dans l'oubli, leurs exploitants ayant été contraints de les abandonner par les autorités romaines qui dépossédaient systématiquement les nouveaux territoires annexés de toutes sortes d'or pour prévenir d'éventuelles révoltes. Des traces de l'exploitation d'alors sont toutefois perceptibles, par la toponymie des villages par exemple, avec le radical Aurum dans le cas d'Oreille, de Laurière ou de la rivière Laurence, ou avec des noms de lieux-dits se rapportant à des animaux fouisseurs, Renardière ou Tessonnière. Ces toponymes font référence aux espaces accidentés que les mineurs ont laissés derrière eux. Ces mines sont en réalité des gisements primaires qui ont été exploités en Limousin, c'est-à-dire ceux où l'or est présent dans les roches sous forme de filons. Les mineurs d'alors creusaient en suivant les filons qui se formaient dans le sol du Limousin. L'or était probablement visible à même les parois rocheuses. Mais pourquoi ces filons ? Eh bien, le sol du Limousin prend appui sur un sol granitique, et donc cristallin, ce qui implique, au sein de cette base, des failles. L'eau circule dans ces failles qui peuvent, lorsque certaines conditions sont réunies, constituer l'endroit où des filons d'or naissent. Revenons maintenant au travail des mineurs. Pour progresser le long des filons, ils doivent creuser la terre et déblayer de très grandes quantités de stériles, qu'ils amoncellent à côté de la mine, formant de massifs tas de roches appelés haldes ou cavaliers. Afin de creuser le sol granitique du Limousin, plusieurs techniques sont employées par les mineurs Lémovis. L'une, manuelle, consiste à attaquer la roche à l'aide d'outils, comme des marteaux, des pics ou la pointerole. Une autre technique est l'ouverture par le feu, qui consiste à faire chauffer la roche jusqu'à son éclatement et qui permet de progresser même quand la roche est vraiment difficile à creuser. On ne sait que peu de choses des hommes qui ont exploité ces mines, il est néanmoins possible de dire que suivant les périodes et les aires géographiques, leur lieu de vie avait une proximité différente par rapport au lieu d'exploitation. Par exemple, autour des mines d'or du Cro-Galénor, des habitations permanentes ont été retrouvées par les archéologues. Ces dernières, en termes d'agencement, de taille, de mobilier, sont sensiblement du même type que celles des autres habitants de la région qui, eux, exploitaient la terre. Elle date de la période d'exploitation la plus ancienne, entre le 5e siècle et le 3e siècle avant Jésus-Christ, et sont proches du lieu d'exploitation. Des vestiges d'habitation et la présence d'objets du quotidien confirme que les mineurs vivaient en famille aux abords de la mine. D'autre part, sur les sites cette fois-ci du Fuyu, exploités plus tardivement, entre le 3e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ, les habitations permanentes sont introuvables aux abords du site. Cela permet de penser qu'ils vivaient plus loin, dans des petites zones urbaines fortifiées, comme il a pu en exister à Tuquet-Château. L'exploitation de l'or par les Démovis apparaît remarquable, tant par son ampleur que par son organisation. Ses spécificités techniques et géographiques sont nombreuses et témoignent d'une certaine maîtrise de la part de ses exploitants, ainsi que de son caractère spécifiquement Démovis. Et voilà, on en a fini avec l'étude d'un de nos peuples ancêtres, les Démovis. On reprendra dans 2 semaines normalement, si tout va bien, avec cette fois-ci l'étude de la période gallo-romaine du Limousin. En attendant, si vous avez des éléments sur l'histoire du Limousin ou d'ailleurs, n'hésitez pas à me les envoyer à martin@radiovassivière.com. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Allez, à bientôt sur Radio Vassivière 88.6 92.3.
Ah! Mais trop, pique ton cœur, Caroline.